Voilà, on peut donc attaquer cette séance consacrée à l'image toute puissante que nous avons de Dieu. Alors, c'est... Pardon?
Je conteste.
Vous contestez quoi?
Moi, j'ai pas l'image toute puissante de Dieu.
D'accord.
Non, moi non.
Bon, ok, très bien. Personne, on peut y aller, on rentre chez nous, on prend un goûter. Bien. Bon, alors dans ce cas-là, je sais par où nous allons commencer. Je vous fais circuler un papier. Vous ne regardez que l'un des deux côtés, surtout Christiane, puisque l'autre côté, c'est Wilfred Monod, donc c'est interdit pour vous. Parce que vous êtes tombé dedans quand vous étiez petite. Bien. Donc, aujourd'hui, dans cette séance, nous allons butiner beaucoup de textes. Des aphorismes en quelque sorte, plutôt que de prendre un ou deux textes que nous étudierions en profondeur. Donc c'est vrai que ça va être plutôt une étude biblique théologique qu'une étude biblique exégétique. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'au sujet de la toute-puissance, il faut rapidement découvrir que c'est plutôt idéologique que biblique. Et en fait, cette notion de toute-puissance qui, si vous ne la partagez pas, vous conviendrez tout de même qu'elle existe et qu'elle est véhiculée de la part de beaucoup de chrétiens et même de croyants. Et pourtant, cette notion de toute-puissance n'a que peu d'attestations bibliques, voire pas. Alors, on va commencer par prendre les choses dans le sens positif. Regardons quelques versets où il peut nous sembler, malgré tout, qu'il y a quelque chose de l'ordre de la toute-puissance. Et ça va nous permettre d'élaborer au fur et à mesure une sorte de définition ou une sorte de compréhension de ce que peut être la toute-puissance. Donc, premier texte, dans l'Évangile selon Matthieu, « Fixant sur eux son regard, Jésus leur dit, « Aux hommes, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Voilà. Et vous voyez, c'est à partir de là, à partir de ce genre de verset, que l'on en déduit que Dieu est tout-puissant au sens où il peut tout faire. Verset suivant, cette fois dans l'Évangile de Marc, « Fixant sur eux son regard, Jésus dit, « Aux hommes, c'est impossible, mais pas à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Donc c'est juste pour vous faire profiter d'une autre syntaxe, « Allah ou para theo », « mais pas à Dieu ». Sous-entendu, il y a un écart, une différence de qualité entre l'homme et Dieu. Et j'insiste là-dessus pour vous laisser entendre que peut-être ce texte parle moins de la possibilité pour Dieu de tout faire que du souci des évangélistes de bien démarquer l'homme et Dieu, de faire une distinction de nature. Laissons un peu la parole à vos réactions. À partir de ces deux versets, qu'est-ce que vous en diriez, vous? Comment est-ce que vous en faites un usage personnel de ces deux versets? Il faut bien faire quelque chose, hein.
Ben quand même, j'aimerais bien pouvoir les replacer dans leur contexte.
Oui, très bien.
Quand on a entendu Matthieu, là, aux hommes, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. C'est quoi, là? C'est un contexte de pardon des péchés ou c'est un contexte de... C'est pas un contexte de démiurgie, c'est...
Oui, c'est au moment où il s'agit en fait d'avoir accès à la qualité de vie de Dieu. C'est en fait avec l'image du chameau et de l'aiguille. Hein? C'est-à-dire que le contexte c'est « Je vous dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des dieux. » Les disciples entendant cela étaient très étonnés. Ils dirent « Qui peut donc être sauvé ?» Et Jésus les regarda et leur dit « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Mais il y a le « tout est possible ». Et le « tout est possible », ce n'est pas une erreur de traduction. Hein? C'est « panta dunata », ça veut dire bien la totalité. C'est le tout, pas simplement la question du salut. C'est-à-dire que la réponse de Jésus, c'est d'universaliser la capacité de Dieu. Certes, on est dans la question du salut, donc pour le dire en d'autres termes, l'accès à la vie en plénitude, mais ce que Jésus semble dire aussi bien chez Matthieu que chez Marc, c'est qu'il n'y a pas un domaine où Dieu serait réputé être incapable d'eux. Donc maintenant, je vous rends la parole. Et vous, que faites-vous de ce genre de verset ?
Il s'agit de sauver un être, sauver un homme.
Oui.
Il ne s'agit pas de transformer une montagne, faire quelque chose d'extraordinaire.
Oui.
Avoir zéro faute à la dictée.
Non.
Mais non. J'ai prié beaucoup pour ça, ça n'a jamais marché.
Sauver un homme.
Oui.
C'est quand même un contexte particulier.
Oui.
C'est pas tout ce qu'on peut imaginer.
D'accord. Donc, c'est une façon de dire que le contexte limite quand même le champ d'application de ce verbe « pouvoir », en quelque sorte. Hmm ?
Je ne sais pas si c'est le champ d'application qui est limité ou si c'est l'esprit de l'énoncé. Je ne sais pas comment dire.
Non, mais il y a un contexte.
Il y a quand même quelque chose qui résiste, c'est le « tout est possible ».
Le tout.
C'est-à-dire que on a quand même envie d'en vouloir plus que simplement la question du salut. Par rapport à ce texte, hein. Pas par rapport à notre élan personnel, mais...
Qu'est-ce qu'on peut vouloir de plus que son salut ?
Oh,
oui, François se lève le matin et se dit « Que dois-je faire pour mon salut ?» Mais bien sûr. Très bien. Bien, bien, bien. Ah oui. Sacré Françoise, on a de la chance. Bien.
Comment je suis loin de tout ça, moi.
Oui. Bon, on sent qu'il y a là une sorte de décalage ou de contradiction entre une formulation qu'on ne peut quand même pas complètement contourner et un sentiment partagé en tous les cas par, disons, les libéraux qui ont du mal avec cette notion de Dieu tout-puissant. Et du coup, j'ai commencé par ce verset-là parce que c'est celui où on se fait le plus mal aux dents, finalement. Vous pouvez maintenant tourner la page que je vous ai passée. Et sur la deuxième page, je vous ai mis des extraits d'un texte de Wilfred Monod, « Aux croyants et aux athées ». Les numéros des pages renvoient à l'édition d'extraits, hein, à l'édition abrégée. On va tout de suite se reporter sur la troisième colonne et au deuxième paragraphe, puisque c'est une réponse directement à ces deux versets-là, qui n'en font qu'un finalement. Voici ce que dit Wilfred Monod. Voici la réponse à mes contradicteurs, donc Wilfred Monod, pasteur de l'oratoire du Louvre, qui va défendre l'idée d'un Dieu qui n'est pas tout-puissant. Et donc, la difficulté à vos yeux... Donc il parle à ses contradicteurs, c'est de concilier l'hypothèse d'une impuissance relative de Dieu dans le monde soumis à notre observation. C'est-à-dire, quand Wilfred Monod regarde le monde, on va voir un peu ce qu'il y voit, il lui semble que Dieu ne peut pas être tout-puissant, ou alors il y a des contradictions insurmontables. Et puis il dit, comment concilier cela avec ces paroles du maître, donc de Jésus, « Tout est possible à Dieu ». Et donc voici son argumentaire. Mais la vraie difficulté ne gît pas là, car la véritable difficulté est de concilier ces paroles de Jésus avec les faits. Donc, à la remarque qui lui est faite, comment est-ce que ce que vous observez concorde avec les textes bibliques ? Lui, il retourne l'argument en disant, mais et vous, comment arrivez-vous à faire concorder les textes bibliques avec la réalité ? Sous-entendu, les textes bibliques n'ont pas une autorité supérieure à l'expérience personnelle que nous faisons de la vie quotidienne. Ils sont au moins au même niveau. Ça veut dire que ce que vous éprouvez, ce que vous découvrez, ce que vous expérimentez ne vaut pas moins que les meilleurs passages bibliques. Alors à la question, comment mettez-vous d'accord votre hypothèse avec les textes évangéliques ? Je réponds. Ce n'est pas simplement une pirouette. Comment mettez-vous les mêmes textes d'accord avec la réalité, et il dit « Pour moi, cela ne m'embarrasse guère. car je ne considère point les paroles de Jésus comme des théorèmes de géométrie où chaque terme a une valeur fixe et mathématique. La Bible n'est ni un ouvrage de science, ni un ouvrage de logique, c'est une littérature. Les paroles du Christ n'y apparaissent pas comme des axiomes à démontrer, des syllogismes à construire, mais comme des hymnes d'âme, des intuitions du cœur, des rayons de lumière qui marquent une certaine orientation de l'être intérieur, une certaine attitude à l'égard de l'univers, une certaine direction de la volonté vers Dieu. Il y a des paroles du Sauveur que je n'aurais pas plus la tentation de presser, de concrétiser en doctrine, que je n'ai la tentation de traduire en formule dogmatique un son, un parfum, une extase, un élan d'amour, un acte de sainteté. Tout est possible à Dieu ? Eh oui ! Cela n'empêche pas le héros de Gethsémané d'ajouter « Père, s'il est possible !» Tout est possible à Dieu, en ce sens qu'on ne sait jamais jusqu'où peut aller l'action de l'Esprit, quand elle trouve un organe approprié. C'est ce que met en pleine clarté la victoire du crucifié sur la mort. Donc, Wilfred Monod, ici, relativise l'usage que l'on fait du texte biblique. C'est-à-dire que ce que refuse Wilfred Monod, ce serait une application à la lettre du texte, on pourrait dire une lecture littéraliste. Et ce qui l'intéresse, c'est de retrouver la vitalité du texte, ce que le texte essaie de rendre par rapport à l'élan que l'auteur a certainement éprouvé lui-même. Et c'est la raison pour laquelle je commençais à vous dire, ce texte travaille plutôt sur les oppositions entre la nature humaine et la nature divine, de même que, effectivement, dans le contexte, il y a une opposition entre la nature des pauvres et la nature des riches. Tout est possible à Dieu. Je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas écarter trop vite, et on peut continuer avec le psaume 115. Mais notre Dieu est aux cieux, tout ce qui lui a plu, il l'a fait. Vous voyez, il y a dans ce verset l'idée selon laquelle le bon plaisir de Dieu ne connaît aucune limite. Ce que Dieu veut se réalise. Si on essaie de prendre ce verset au pied de la lettre et de l'appliquer dans notre histoire, où est-ce que ça coince? Essayons de faire un peu de théologie rapportée à nos connaissances, à notre vie ou à l'histoire. En quoi est-ce que ce texte biblique entre en contradiction avec ce que nous avons sous les yeux? Pour autant qu'il entre en contradiction. Il l'a fait. Oui, est-ce qu'on peut en citer une ou deux? Parce que...
Par exemple, les histoires de guerre ou de, je sais pas,
Voilà. Bon, voilà, prenons l'étage haut. Donc il y a effectivement tous ces aspects de la grande histoire dont on peut se dire qu'elle ne plaise pas à Dieu. Selon quelle règle logique? Qu'est-ce qui nous fait penser que ça ne plaît pas à Dieu? Qu'est-ce qu'on en sait? Non, c'est pas une question piège. C'est juste pour qu'on affine notre argumentaire. On peut dire ça aussi.
Il a guéri, il a sauvé Lazare, donc comme ça lui plaît, il le
fait. Oui, et donc s'il ne le fait pas, c'est que ça ne lui plaît pas.
Il y a peut-être un peu quelque chose, oui.
Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc effectivement, je vais reprendre les choses dans leur aspect le plus radical, comme disait François. 6 millions de juifs exterminés pendant la Shoah, ça, c'est que ça devait lui plaire. S'il n'a rien fait contre. Non, l'argument, ce qu'il n'a pas fait, c'est que ça lui plaisait. S'il n'a rien fait contre...
Ce qu'il n'a pas fait, c'est que ça ne lui plaisait pas.
Voilà. Donc, ce verset biblique résiste ou en tout cas des aspects de notre histoire résistent à ce verset biblique. Mais on n'a pas encore dit en vertu de quoi on pense que ça lui plaît ou que ça ne lui plaît pas.
On a commencé par prendre le contraire de ce que dit le verset, et de s'interroger sur ce qui ne plaît pas à Dieu.
Oui, mais on peut s'interroger sur ce qui lui plaît.
Qu'est-ce qui est, tout ce qui lui a plu, il l'a fait. Hmm. Interrogeons-nous sur ce qui plaît à Dieu.
Oui. Soit.
Non pas le contraire par.
Oui, mais que, l'échelle, par, l'échelle du goût. Que, nous, oui. On aime non, mais,
ce alors.
Il, ouais. Ça aurait été visé parce que notre Dieu est tous cieux.
Oui.
Donc c'est pas Dieu qui est.
Ouais, la terre. Est voilà, il n'est pas au milieu de
nous. Bah, les cieux. Voilà. La terre.
Ouais. Oui. Alors.
Dans le domaine peut-être de ce qu'on ne connaît pas.
Mmh. Oui, alors la question est de savoir s'il y a une interaction entre l'histoire de ce Dieu dans les cieux et nous. C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, il y a un point de jonction quand même ? Bon. Les textes bibliques semblent quand même montrer que le Dieu des cieux, c'est aussi le Dieu de l'histoire. C'est rappelé à plusieurs reprises. Prenons simplement on peut dire le paradigme de la sortie de l'Exode, de l'Exode, de la sortie d'Égypte. Que dit le peuple ? Bah, que c'est Dieu qui l'a fait sortir d'une main forte, même si c'est le Dieu des cieux. Sauf à considérer qu'effectivement, il y a un Dieu créateur, un Dieu des cieux, et puis un Dieu de l'histoire. Ce que certains ont pu envisager, par exemple. Mais peut-être que ce que vous vouliez dire, c'était Dieu des cieux, c'est une manière de dire qu'il ne peut pas régler tous les aspects terrestres. C'est ça ?
Parce que, de toute façon, là, on est confronté à notre liberté. Je ne peux pas tout parce que je suis libre.
Oui.
Il y a des choses qui ne peuvent pas. Je peux faire ce que je veux, moi aussi.
Donc, ça, voilà. Ce que je veux, ce qui me plaît, entre en contradiction avec l'idée de toute puissance. C'est-à-dire que ça pose une limite à la toute puissance de Dieu. S'il y a en fait, c'est plus que la liberté. À partir du moment où il y a un monde réel, ça s'oppose à l'idée de toute puissance de Dieu, parce que si Dieu était tout puissant, il serait tout finalement. Et à partir du moment où il y a du réel, ne serait-ce que la terre, indépendamment de notre volonté, de notre liberté, à partir du moment où il y a autre chose que Dieu, ça limite la toute-puissance de Dieu. Ça, c'est plutôt un argument philosophique, ou un argument de raison. Mais c'est un argument qui vaut.
Oui, ça, moi je suis tout à fait d'accord avec ça. J'avais réfléchi parce que ça pose le problème, et vous l'avez fait tout à l'heure, c'est pour ça que j'en parle, entre le créateur et la création. Alors, ces deux choses, si on des, il y a des difficiles qu'il y ait des passerelles entre un créateur et sa création. Alors, évidemment, c'est pardon, plutôt notion philosophique que théologique. Mais je vous donne un exemple. Vous allez dans une galerie d'art, vous voyez un très beau tableau, vous vous dites, ah ben voilà, un très beau tableau, ça. Mais ce n'est pas pour autant que même si vous connaissez, on vous dit le nom du peintre, c'est pas pour autant que vous allez connaître le peintre tel qu'il est, s'il est grand, petit, gentil, méchant, que sais-je et tout. Il y a un fossé difficilement comblable entre la création et le créateur. Alors ça, c'est une notion vraiment philosophique. Mm-hmm. Alors si on l'applique à la théologie, on se rend compte qu'il y a effectivement ce fossé quand on dit que Dieu est dans les cieux. Et je me souviens, moi, quand je faisais mon école du dimanche, votre collègue qui était président de la Société des Missions, d'ailleurs, nous disait toujours « Dieu qui est dans son ciel ». Et il avait toujours cette précaution oratoire de nous dire « Il n'est pas là, mais il est ailleurs ». Alors ça m'avait d'ailleurs frappé et beaucoup marqué. Bon, il y a le problème de savoir comment le créateur, l'homme créé peut se rapprocher et connaître son créateur. Et c'est la réponse, évidemment, c'est la question que l'on se pose.
Mmh. Un des éléments, c'est le caractère révélatoire des Écritures. C'est le caractère révélatoire de la succession de témoignages qui forment la Bible, c'est-à-dire les générations qui essaient de rendre compte de l'expérience et du raisonnement qu'elles ont produit pour cette rencontre, en fait. L'autre aspect, c'est nous-mêmes qui sommes impliqués dans cela. C'est-à-dire qu'on est à la fois observateur de ce que les autres en disent, et puis on est partie prenante. Donc on peut essayer de dire quelque chose de ce que nous-mêmes nous éprouvons.
Est-ce que,
ouais.
En fonction de ce que tu dis, les êtres humains sont par principe des obstacles à la volonté de Dieu? Ou est-ce qu'ils sont des agents, enfin, de cette
des
volonté,
ouvriers.
Des ouvriers?
Alors, par principe, des obstacles, ça serait une vision assez manichéenne qui reviendrait à dire tout ce qui est créé est mauvais. C'est-à-dire qu'il y a un Dieu bon, mais le monde est le lieu du péché. Ça, c'est la vision manichéenne avec l'opposition entre le bien et le mal. Ce que Wilfred Monod disait, c'était que tout est possible à Dieu pourvu qu'il y ait le bon organe au bon moment et au bon endroit. Du coup, ça serait l'humanité comme vecteur, comme agent, hein, pour reprendre ton terme. On peut imaginer que ce soit l'humanité, par exemple, qui soit le bras. On pourrait dire Dieu n'a pas d'autres mains que les nôtres, en quelque sorte. On va le voir ensuite, cela. Comment est-ce que la limitation de Dieu trouve son prolongement, malgré tout, dans l'homme. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a une limitation, et puis après, il y a une continuation. Mais il y a une sorte de transfert de compétences.
On peut reprendre un des termes de votre prédication qui se terminait par Dieu propose et l'homme dispose.
Ouais, j'essaye d'éviter de me citer, alors c'est pour ça que.
Je suis là pour le faire.
Vous êtes bien bon avec le petit personnel. Oui, c'est cela. Ouais, vous me troublez là. J'essaie de vous montrer ce que vous êtes en train de soulever. C'est une distinction qui a été faite au Moyen-Âge, la distinction entre la gloire et l'infinité divine. C'est-à-dire que la question qui se pose, pourquoi est-ce qu'on hésite? Pourquoi est-ce qu'on résiste à faire le travail de Wilfred Monod de parler de l'impuissance de Dieu? C'est parce qu'on a l'impression qu'on dénature le divin, qu'on peut avoir le sentiment qu'il y a quelque chose qui est blasphématoire, qu'il y a une sorte d'attentat à la majesté divine, une sorte de crime de lèse-majesté. Mais si on distingue la gloire de Dieu et son infinité divine, alors peut-être qu'on peut s'en sortir. Les théologies classiques font en quelque sorte une confusion entre la gloire et l'infinité. Les théologies classiques parlent de l'infinité de Dieu, et ce serait sa qualité. Vous savez, Dieu serait quasiment immortel, infini, capable de tout. Enfin, il y a du tout à toutes les sauces. On va le voir tout à l'heure avec un texte de saint Augustin. Simplement, si on reprend déjà votre argument, la liberté de l'homme ou simplement la réalité, s'il y a quelque chose plutôt que rien, l'infinité de Dieu trouve déjà un obstacle, trouve déjà une limitation. Heureusement, et ça va être l'un des arguments de Wilfred Monod, heureusement qu'il y a cette limitation, et pas une limitation construite pour sauver Dieu, mais c'est cette limitation qui sauve l'honneur de Dieu. Parce que s'il n'y avait aucune limitation, ça veut dire que Dieu porterait la responsabilité de toutes les défectuosités du monde. On va retourner un petit peu la page, on va se refaire encore un petit peu de Wilfred Monod. Si vous trouvez que je vous fais trop de Wilfred Monod, vous me le dites. Hein. Si, on peut faire autrement, mais bon. Tout d'abord, on va reprendre votre ce que vous avez souligné sur le Dieu du ciel et le Dieu qui n'est pas là, qui n'est pas en toute chose. C'est le premier paragraphe. D'après la tradition chrétienne, il existe un Dieu omniprésent et omnipotent. Donc nous, on s'intéresse aujourd'hui à l'omnipotent. Donc omnipotent, c'est celui qui peut tout. Mais s'il est omniprésent dans la nature, il n'est pas intelligent, car l'esprit immanent produit des monstres. Wilfred Monod, c'est la colonne de gauche, premier paragraphe. Wilfred Monod dit, dans la nature, il y a des monstres. Bon, il y a bien sûr des animaux à deux têtes, il y a des animaux qui se gargarisent du sang des autres, le lion, c'est de la gazelle digérée. Enfin, vous voyez, la nature, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus évangélique en soi. La nature a quelque chose de monstrueux aussi. Et d'autre part, si Dieu est omnipotent dans l'histoire, il n'est pas bon, car la providence laisse libre cours aux pires souffrances et aux pires scandales. Donc, c'est ce que disait Françoise. Mais là, on a ce que je vous demandais et que vous n'avez pas donné, c'était ce qui nous permet de savoir ce qui plaît à Dieu. Au fond, l'un des critères pour savoir ce qui plaît à Dieu, c'est le fait que Dieu est amour ou Dieu est bonté. C'est ce que disent quelques textes bibliques, notamment les épîtres de Jean. Dieu est amour. Si Dieu est amour, alors il y a effectivement des souffrances et des scandales qui ne devraient pas être. En conséquence, on peut concevoir quelque chose de supérieur à la notion traditionnelle de la divinité. La notion vulgaire n'est pas assez religieuse, elle ne satisfait ni la raison ni l'âme. C'est-à-dire que on est dans une triangulation. C'est la triangulation que Paul Ricoeur explique très bien dans une conférence qui est tout à fait lisible et qui a été éditée dans un petit volume, c'est Le Mal, je crois. Il dit, on est au cœur d'une triangulation, là. Il y a d'un côté le mal. Il y a de l'autre côté Dieu omnipotent, tout-puissant. Et puis il y a Dieu tout amour. Et il dit, au fond, il y a là des choses non seulement paradoxales, mais contradictoires. Donc, le mal, l'amour et la puissance. On va dire la toute puissance. Est-ce que les trois peuvent tenir ensemble? Bon, là on a déjà vu qu'il y avait un problème, c'est que si Dieu est tout puissant et qu'il est tout amour, dans ce cas-là, il ne devrait pas y avoir de mal. Donc là déjà, ça ne marche pas. Ce qui ne va pas en fait, c'est que l'amour et le mal ont tendance à s'opposer. Si Dieu était tout puissant et que le mal corresponde à son projet, dans ce cas-là, il ne serait plus tout amour. Donc, la seule manière d'avoir une quadrature du texte, du cercle, ça serait de rajouter un quatrième élément. C'est-à-dire que pour que Dieu soit tout puissant, qu'il y ait du mal et qu'il soit tout amour, il faudrait qu'il soit aussi pervers. C'est-à-dire que c'est à la condition que Dieu soit perverse qu'il peut être à la fois tout puissant, tout amour et laisser se répandre le mal. Alors ça, c'est un choix qui vous incombe, si c'est le choix que vous faites. Alors, soit c'est l'homme qui crée une faille à un moment donné et rend la quadrature possible en étant le quatrième terme, finalement. En étant le pervers de service, finalement. Alors, par pervers, peut-être qu'on peut ne pas penser aux pervers qu'on trouve dans les cliniques psychiatriques. Dans tous les cas, l'homme pécheur est un peu cet homme-là, au sens de Paul, celui qui veut faire le bien, mais qui n'y arrive pas. C'est-à-dire, en fait, c'est ça la perversité. C'est quand on se fixe un objectif noble et qu'on atteint un objectif qui ne l'est pas. Il y a des, je veux dire, des insuccès qui relèvent de la perversité. On veut faire plaisir à quelqu'un, on lui dit un mot gentil, et puis en fait, ça le blesse. Alors, finalement, c'est perverse comme attitude, même si ce n'était pas désiré. Donc, effectivement, on peut dire le quatrième terme, ça peut être l'homme. Mais l'idée des textes bibliques, c'est de rapprocher l'homme de cette case amour. Hein, c'est tout le travail de la prédication de Jésus. Et donc, de le mettre là et de l'éloigner de ça. Bon. Si on s'intéresse à Dieu indépendamment de ce quatrième terme, comment résoudre cette équation? Eh bien, Wilfred Monod va, justement dans les textes qui nous sont proposés, nous dire des petites choses tout à fait intéressantes. Le premier élément que nous pourrions lire, c'est sur la... Bon, on va prendre la deuxième colonne. On va carrément aller au bout. Deuxième colonne, le troisième paragraphe. Oui, la croix de Golgotha. Donc la croix de Golgotha, ça veut dire la crucifixion de Jésus. Moment inouï du conflit tragique et nécessaire entre le bien et le mal, démontre l'impuissance de Dieu. D'ailleurs, cette impuissance éclate partout d'après la doctrine chrétienne. À l'origine des choses, on pose un créateur omnipotent qui n'a pas voulu la souffrance, le péché, la mort. Et cependant, le mal est là, malgré lui, déchaîné par la spontanéité humaine. Dans l'histoire sainte, on nous montre une sagesse providentielle qui prépare pendant des siècles l'apparition d'un Messie prophétisé au sein d'un peuple prédestiné, et ce peuple crucifie son Messie. Voilà, donc ça c'est le sommet du tragique. Ce n'est pas simplement dramatique, c'est tragique parce que c'est en quelque sorte comme si on se sciait la branche sur laquelle on avait voulu s'asseoir depuis toujours. Et depuis lors, 2000 ans bientôt se sont écoulés, et le Saint-Esprit qui a fondé l'Église ne voulait pas la perpétuité du paganisme en Afrique, en Asie. Il ne voulait pas l'avènement du romantisme papal, il ne voulait pas les schismes, les persécutions, les guerres de religion, le dogmatisme autoritaire, et cependant, la puissance de Dieu n'a pas épargné au christianisme traditionnel tant d'erreurs et tant de crimes. Dieu ne veut pas, et d'un autre côté, il ne peut pas. Parce que si on considère que le Messie, l'Église, sont le bien propre de Dieu, ce qui lui est le plus cher, alors l'histoire montre à quel point ce bien propre est particulièrement malmené. Ce qui lui est le plus cher souffre. C'est toujours le drame du calvaire qui recommence. Eh bien, ce Dieu vaincu est celui qui parle à mon cœur. Je ne pourrais pas adorer une divinité qui serait responsable de la continuation du monde actuel. Alors, on nous objecte, Dieu ne veut pas expressément tout ce mal. Il se borne à le permettre. C'est comme s'il limitait un peu sa capacité d'action pour nous laisser libres. Je vous laisse réfléchir. Et hop, Mono ajoute, oui, il le permet expressément et cela revient au même. C'est-à-dire que s'il restreint sa liberté d'action pour laisser la liberté de l'homme, ça veut dire que ce que l'homme va faire, ça lui convient, ça veut dire qu'il veut le mal commis. C'est-à-dire qu'il l'accepte. Donc, Wilfred Monod dit, c'est pareil. Alors dira-t-on, s'il ne permet pas, il essaie d'empêcher ? Et c'est ce que je disais justement dans ma prédication, je recitais ça, c'est précisément l'hypothèse que je formule, Dieu s'efforce et ne réussit pas toujours. Quel soulagement de le croire, diminuer métaphysiquement la divinité et moralement grandie. Donc, de cela, il en ressort quoi? Eh bien que, en fait, le terme qui tient, c'est amour, Dieu est amour, et entre ces deux pôles, eh bien, il y a un choix à faire. Soit on fait le choix de la toute-puissance, et dans ce cas-là, on garde une métaphysique haute. Soit on le refuse, Et dans ce cas-là, la métaphysique, effectivement, est réduite, mais la morale, elle, est rehaussée. C'est-à-dire que soit on a un Dieu tout-puissant immoral, soit on a un Dieu non tout-puissant moral. Boire ou conduire, il faut choisir. Faites votre choix.
De raisonner en logique,
ouais.
Trouver une sortie par rapport à la logique,
ouais.
On n'y arrive pas.
Ouais.
On n'y arrive pas. Et moi, c'est le terme de toute puissance. Je me demande s'il n'y a pas une autre signification. Par exemple, vie. La vie. Et je repense à ce texte de l'Ancien Testament. Voici, je mets devant toi le bien et le mal. Choisis le bien pour vivre. Pas que tu vises. Je trouve qu'on ne s'en sortira jamais en opposant pour régler cette question, essayer de régler cette question par la logique de la toute-puissance de Dieu. Je me demande d'ailleurs même si ça a vraiment un sens.
C'est toute vitalité.
Ouais, moi je...
Même si en grec, c'est bien la dynamos, hein, la puissance comme ça, mais métaphysiquement et tout,
ouais. Alors, je réponds à vos deux objections. La première question, est-ce que c'est utile de se poser la question ? Oui, en fait, c'est utile de se poser la question parce que les conceptions théologiques transpirent souvent sur les conceptions politiques. Et donc, l'idée que l'on se fait du théologique a des conséquences sur l'idée que l'on se fait de ce que doit être une structure politique ou une structure étatique, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a des sortes de projections. Il y a des projections sur nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on se rend compte souvent que la conception que l'on se fait du divin instruit notre éthique. C'est-à-dire que, globalement, le Père Tout-Puissant compris comme celui qui a tout pouvoir, ça a nourri quelques générations de pères, au sens biologique du terme. Quand on a une idée d'un Dieu qui est diminué métaphysiquement, bon, bah forcément, on ne peut pas considérer qu'on soit au-dessus sur le plan métaphysique. Et que du coup, ça va un peu calmer les relations qu'on peut avoir avec la génération à venir. Vous voyez, il y a des transpositions comme cela qui se font. C'est utile, je pense, aussi de s'interroger sur, sur cette figure de la toute-puissance, parce que, je réponds justement à votre remarque, elle nous empêche de raisonner convenablement. C'est-à-dire qu'elle elle sature notre imaginaire. Parce que si je reprends vos termes, vous avez eu un raisonnement juste avec un résultat faux. C'est-à-dire que vous avez tous les éléments qu'il vous faut pour, j'allais dire, répondre juste sur le plan théologique, avoir une bonne note, etc. Et malgré tout, vous vous êtes senti obligé de dire quelque chose d'incorrect. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est la dynamis en grec.
Oui, je suis revenu au
terme de plan. Oui, oui. D'ailleurs, on y reviendra. Mais la dynamis, ce n'est pas la toute-puissance, c'est la puissance. Et vous voyez comme quoi il y a une contamination. Et oui, c'est la puissance, c'est pas la toute-puissance. Et c'est pour cela que c'est important de travailler sur la toute-puissance, parce que, comme je vous le laissais entendre, mais on va le voir de façon plus précise, c'est un concept qui n'est pas biblique. Alors, c'est comme l'histoire du péché originel, si vous voulez. C'est un concept qui n'est pas biblique, c'est un concept qui est théologique, qui est construit à partir de ces versets que je vous ai offerts comme quelques perles, histoire de faire quelques éruptions cutanées, et à partir de traductions qui ne sont pas dans les textes originaux sur la même longueur d'onde. Donc, c'est utile d'interroger la tradition, d'interroger la réception, parce que s'il y a eu, des dérives linguistiques, c'est bien parce qu'il y a une sorte de disposition de l'être humain à aller vers cette dérive-là. C'est-à-dire que Dieu, schématiquement, d'un point de vue stéréotype, doit être tout-puissant. Sinon, ce n'est plus Dieu. Dans l'imaginaire collectif, Dieu est Dieu à condition qu'il soit tout-puissant. C'est-à-dire que ce soit le top du top dans tous les domaines. Et Augustin va tomber là-dedans. Augustin, il va nous mettre du omnia partout, du tout, 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 tout. Tout créateur, tout puissant, tout capable, ceci. On a un texte où il y a du omnia dans les trois termes qu'il utilise pour Dieu. Donc, c'est utile parce que je crois que les textes bibliques sont là pour démonter les systèmes qui nous rendent esclaves. Les textes bibliques sont là pour démonter les mécanismes d'asservissement. Et la toute-puissance, c'est un mécanisme d'asservissement qui s'est mis en place tranquillement au fil des siècles. Je ne dis pas qu'il y a une sorte de complot. Je pense qu'il y a une prédisposition de chacun à se mettre sous le joug d'un autre. Il y a une prédisposition de l'homme à se rendre esclave d'eux. Et le texte biblique résiste à ça. Et nous, eh ben, on résiste à la résistance du texte biblique. Donc, je pense que c'est utile, parce que pour rester libre, il faut se coltiner ce genre de choses. À partir du moment où il y a la toute-puissance quelque part, ça veut dire que vous n'existez plus, en fait. Hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si on le prend dans l'autre sens, s'il a toute-puissance, ben nous, on est nada. Quelqu'un qui est tout-puissant, il rend le reste inexistant.
Ça, c'est la conception qu'ont tous les évangéliques, à part les fondamentalistes. Les trois quarts de l'Église chrétienne, ils pensent ça. C'est blasphématoire de s'interroger, de s'interroger ou de contester ou de relativiser la toute-puissance.
C'est-à-dire que ça supprime...
Ben, peut-être, mais s'il n'y a pas le quart qui résiste... Après, il n'y a plus que les pierres pour crier, selon la formule des Rameaux. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a trois quarts qu'on tord qu'on va faire comme les autres. Oui.
Et alors, en hébreu, quels sont les termes qui indiquent la puissance de Dieu ?
On va le voir après, on va y arriver, ne vous inquiétez pas. On va faire un peu de philologie, mais on continue un peu avec la logique. Parce que justement, parce que c'est un raisonnement humain, jusqu'à présent, on est avec un raisonnement humain. C'est-à-dire qu'il faut jouer à armes égales. Et donc, la logique, effectivement, c'est ce qu'on a fait valoir jusqu'à présent, mais c'est une façon de répondre à une logique qui s'est mise en place. Je continue sur cette idée de limitation de Dieu, en un seul mot, la limitation. Je reprends un peu la formule que nous avions sur la toute-puissance empêche la liberté, empêche l'existence de l'autre. Pour vous le dire en une formule philosophique, si Dieu possédait le monopole du pouvoir, il disposerait aussi de l'exclusivité de l'être. Rien n'existerait à côté de lui. C'est une façon philosophique de résumer ce qu'on vient de se dire. Du coup, s'il y a quelque chose à côté de Dieu, a priori, on n'est pas qu'une illusion. Enfin, il suffit de vous donner un grand coup de pied dans le temple rénové pour vous rendre compte que la douleur est bien réelle. Donc, ça signifie que tout ce qui arrive ne dépend pas que de la volonté de Dieu. Il y a autre chose que du divin. Et du coup, quelle est la limitation de la volonté de Dieu ? C'est Whitehead qui a une proposition que je vous livre. Donc Whitehead qui est un mathématicien et qui devient théologien au milieu du XXe siècle. La bonté de Dieu est sa limitation, justement. Il n'est pas vrai que Dieu soit infini à tous égards, écrit-il. Si tel était le cas, il serait mauvais aussi bien que bon. Oui. Et donc, il dit, si Dieu rejette le mal... Alors il se limite. Mais s'il n'est pas tout amour et tout mal, s'il est juste tout amour, alors il se limite dans sa capacité d'être. Donc Dieu est limité. Mais cela ne rend pas Dieu moins parfait pour autant. C'est-à-dire que ce n'est pas une sorte d'évacuation du divin. C'est au contraire une sorte de restauration du divin. Les mathématiques, par exemple, nous apprennent que quelque chose qui est borné peut quand même être recélé d'une infinité. C'est-à-dire, entre 1 et 2, il y a une infinité de nombres. La vie éternelle, c'est ça. La vie éternelle, c'est pas que il n'y a pas, enfin, qu'on, voilà, qu'il n'y aurait pas de limite. C'est pas l'immortalité. C'est le fait qu'entre 1 et 2, il y a une infinité, il y a une intensité, il y a une concentration d'existence. Et cette concentration, c'est une qualité de vie, c'est ça, qui est souvent présentée comme la vie éternelle.
Est-ce que je peux prendre
Oui.
Un autre texte, le texte de la Genèse,
oui.
La création.
Oui.
Dans le texte de la création, celui qui se limite, c'est pas Dieu, c'est l'homme, en créant la pomme. Dieu, dans le récit de la Genèse, c'est le Dieu tout-puissant qui crée. Et celui qui se limite, c'est l'homme.
Alors, par exemple, le texte de la création ne dit pas que c'est Dieu qui fabrique le matériel. La poussière, l'eau, les étoiles.
C'est quand même dit qu'il fabrique tout. Hein.
Non, il dit qu'il crée.
Il sépare le ciel, les eaux de la terre, etc.
On a une science quand même là-dessus. On a dit les choses un peu clairement. On a rappelé que la création se faisait par la parole et que la création se faisait en nommant les choses, c'est-à-dire en distinguant et en reliant, pas en fabriquant. C'est pas à Dieu qui fabrique les poussières d'étoiles, etc. Oui, alors là, moi, mon fils, si je lui mets pas quelque chose entre les mains, il voit la différence. Non, il est juste polémiste.
Le fait que Dieu soit qu'on pense que Dieu soit tout puissant,
ouais.
En fait, ça déresponsabilise parce qu'en fait, on se dit bon bah si c'est comme ça, de toute façon, il l'a voulu, il est tout puissant.
Oui.
Alors il y a ça beaucoup de religions, de congrégations, de tout ce que tu veux qui s'abritent derrière ça.
Oui, on verra effectivement que c'est une manière, avec cette théologie, avec cette approche non toute puissante, de dégager l'homme aussi de la fatalité, en fait. Parce que forcément, c'est là où je ne suis pas d'accord avec François, c'est que le fait de goûter la pomme, ça ouvre d'autres possibilités. C'est-à-dire qu'il ne se limite pas, au contraire. Il s'ouvre à un...
Il s'ouvre. Il a laissé à l'homme la liberté.
Alors, la question est là. Est-ce que Dieu laisse la liberté? C'est une hypothèse, mais alors, souvenez de ce que disait Mono. Si, en quelque sorte, Dieu laisse faire, bon, bah, ok, c'est comme s'il voulait. C'est qu'il agrée. La question, c'est est-ce que Dieu pourrait faire autrement, finalement? C'est-à-dire que une hypothèse, c'est que Dieu ne peut pas aller contre la liberté de l'homme. C'est pas qu'il le laisse, c'est qu'il ne peut pas. C'est-à-dire que si maintenant je quitte la salle et que vous ne m'envoyez plus jamais, Dieu peut rien contre ça. Oui. Mais justement, il ne peut pas. Je veux dire, s'il avait dû me foudroyer, il l'aurait fait depuis longtemps, je pense. Enfin, s'il pouvait me foudroyer. Ouais, vous êtes bien bon avec vous. Mais c'est vrai pour la plupart d'entre nous, vous inquiétez pas. C'est-à-dire que si Dieu était dans le registre de la correction possible, eh ben, j'espère qu'il rectifierait pas mal de choses. Mais manifestement, s'il ne le fait pas, c'est qu'il ne peut pas. Ou alors, on reprend le quatrième terme, il est pervers. Bon, mais là je résiste un peu, mais... C'est possible aussi, il est grand le mystère de Dieu. Et sa justice est incompréhensible, nous ne sommes que de pauvres pécheurs, comment voulez-vous que nous comprenions? Si Dieu fait, c'est que c'est bon, c'est que c'est juste, on va quand même pas se mettre à sa place. Ouais, ça c'est quand même un argument un peu...
Il y a des choses qui me trouvent.
Oui.
Même Jésus sur la croix,
oui.
Il s'interrogeait sur la puissance de Dieu par rapport à lui. Pourquoi tu voudrais as-tu abandonné? Enfin, quand il dit ça, c'est grave parce que il est quand même, lui, c'est la parole de Dieu, et lui, il se sent abandonné. Alors, est-ce que Dieu, où il est? Vous voyez ce que je veux dire?
C'est-à-dire que quand Jésus dit cela sur la croix, c'est une citation du psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, il y a une sorte d'ambiguïté. Est-ce que c'est ces mots, juste ces mots qu'il a décidé de dire sur la croix, comme une sorte de cri d'angoisse? Point. Et dans ce cas-là, le sentiment de l'abandon absolu. Ou est-ce que c'est une citation qui nous invite à dire nous-mêmes le psaume 22, et le psaume 22 finit bien. Le psaume 22 est la prise au sérieux de l'angoisse et l'espérance qui nous permet de surpasser cette situation d'angoisse et de deuil, en fait. Est-ce que Jésus, sur la croix, citant le psaume 22, ne nous invite pas à rejoindre ensuite le cœur de louange, comme le psaume 22? Est-ce que ce n'est pas une invitation à sortir de cette crise existentielle des disciples ou cette dépression qui leur tombe dessus? Est-ce qu'il n'y a pas déjà là une sorte de préfiguration de la résurrection? Est-ce qu'il n'y a pas là une prédication sur le fait que mort, elle est où ta victoire là? C'est pas qu'il est comme... comme le philosophe qui boit tranquillement sa ciguë, comme si de rien n'était, impassible. Non, il n'est pas impassible sur la croix. N'empêche qu'il voit que ce n'est pas le terme de l'histoire. Et que le tragique, là, n'est pas le terme de l'histoire. Bon, maintenant, on peut aussi considérer que Jésus dit ces mots sans citer le psaume 22, qu'il a juste un cri d'angoisse. Un coup de déprime. Ouais.
C'était un juif très croyant. Et donc, moi, je crois qu'à mon mode d'interprétation, c'est pour ça.
Croyez en Dieu plutôt.
Mais bien sûr, je veux dire que je pense à l'idée supérieure.
Oui.
C'est parce que c'est certainement l'explication la moins superficielle, la plus proche, celle qui est le plus dans l'esprit également du judaïsme et du christianisme.
Oui, je pense que c'est dans la perspective croyante, tout simplement.
C'est dommage qu'on ne l'explique pas davantage. On ne met pas au fond souvent de cette parole.
Bon, ça sera sur Internet.
Alors, moi,
oui.
Tu vas dire que je suis
apolémiste. Non, pas la peine, tout le monde le sait. Enfin, je dis non. Mais très bien.
Je me demande si c'est vraiment important pour nous de discuter.
Ça y est, ça commence.
De discuter.
Oui.
Je lui ai déjà dit avant.
Attends, t'es pas
Oui.
De discuter sur la puissance la non-puissance de Dieu.
Ouais.
Et si l'important pour un chrétien, c'est pas plutôt de de réfléchir sur cette parole du Christ, voici je suis le chemin, la vérité et la vie.
Ouais.
Pour moi, c'est beaucoup plus important de savoir qu'est-ce que c'est que le chemin, la vérité et la vie,
d'accord,
que de réfléchir et de disserter à l'infini sur la puissance et la non-puissance.
Ouais, d'accord.
Non.
Ouais, d'accord. On est là pour parler d'autre chose que du sujet, enfin, Françoise. Non, je peux faire une autre réponse. C'est
très intéressant, ça vous intéresserait beaucoup.
Si prenons cette citation de l'évangéliste Jean, je suis le chemin, la vérité et la vie. Qu'est-ce qui va nous autoriser à emprunter ce chemin-là? Ou qu'est-ce qui peut nous rendre capables? Parce que si Dieu est tout-puissant, la question est, nous n'avons même pas besoin de prendre ce chemin-là. C'est-à-dire que précisément, ça le rend inutile. En revanche, si Dieu n'est pas tout-puissant, alors ça veut dire que ça rend la question scrutable. Donc, il y a des éléments comme cela qui sont finalement des fondamentaux pour savoir si c'est la peine de continuer. Moi, j'espère que je trouve des abîmes de perplexité, là.
Non.
Vous voyez, quand des croyants se rassemblent en église pour organiser le culte, si Dieu est tout puissant, ben en fait le culte devient inutile et impossible en fait. Parce que si Dieu était tout puissant, ben en fait il aurait un visage monstrueux. Et soit on en aurait peur, soit on le haïrait. Mais il n'y aurait plus d'adoration possible. Ceci dit, peut-être que tu viens par crainte au temple, mais... et ainsi de suite. Enfin, il y a quand même, comme cela, plusieurs domaines où les choses peuvent se jouer. On essaie de faire un peu de philologie.
Il est vengeur, des fois, tu...
Il n'est pas très clean, hein. Il n'est pas toujours très théologiquement correct, cet homme-là. Non, je plaisante, mais... en tous les cas, il est présenté des fois comme un dieu vengeur. Mais vous savez, il faut se méfier parce que c'est dans les psaumes, notamment. Le psaume, c'est pas parole de Dieu. La Bible, déjà, n'est pas parole de Dieu. Et les psaumes, encore moins. Il y a... je vais vous passer le petit document, là. Philologique. D'un côté, il y a toutes les occurrences de Pantocrator dans la Bible. Pantocrator, c'est le terme grec pour omnipotens, qui signifie tout-puissant. D'un côté, vous avez des petits termes en grec, en hébreu, c'est le philologique. Et de l'autre côté, vous avez toutes les occurrences. Vous voyez qu'il y a des occurrences pas mal dans le livre de Job, par exemple. Le problème, c'est que le livre de Job... Il n'y a pas que Dieu qui parle dedans. Il n'y a même quasiment pas Dieu qui parle dedans. Il n'y a quasiment que des mauvais élèves en théologie qui causent dans ce livre. Les amis de Job. Et bien justement, pour se prémunir contre notre propre tentation à être à l'image des amis de Job. C'est une sorte de contre-modèle. C'est éducatif les contre-modèles aussi. C'est que quand un ami de Job cause, et bien grosso modo, on sait que c'est l'inverse qu'il faut penser. Quand un ami de Job parle, et bien globalement, on sait qu'il faut penser l'inverse. Donc ça a son charme aussi, ou son utilité. Dans ce livre, on parle beaucoup de Tout-Puissant, de Pantocrator. Mais on parle... Voilà, on va... Donc, pour parler du Dieu vengeur... Il y a un psaume qui dit « Je hais cette personne d'une haine parfaite ». Est-ce que Dieu est haineux ? Vous pouvez le penser, mais moi j'ai plutôt l'impression que ces psaumes sont là pour nous dire justement quel est le travail d'évangélisation que produit Dieu pour convertir notre prière à, j'allais dire, de meilleurs sentiments, c'est un peu faible. Mais en tous les cas, un rapport réconcilié à la vie et aux autres. Comment on fait passer quelqu'un de l'angoisse de « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» à la louange. C'est le même processus que comment fait-on passer quelqu'un de la haine parfaite à l'amour de l'ennemi. Entre les deux, il y a un cheminement. Mais si on s'arrête au premier terme, on a l'impression que Dieu est vengeur, que Dieu est haïsseur, que Dieu est tout-puissant, etc. Au Moyen-Âge, je reprends en fait François parce que je ne peux pas le laisser dans cet état-là. Parce que la toute-puissance, quand même, ça a des conséquences graves. Non, c'est pas aussi innocent que ça. Non, c'est moi qui cause. Non, parce que là... Parce que qu'est-ce qui se passe ? C'est que au Moyen-Âge... Là, j'ai pris une note parce que d'un seul coup, je me souviens que j'ai une note. Voilà, Pierre d'Amiens. Ça pourrait être... Contre Jérôme, Pierre d'Amiens pense que Dieu peut faire qu'une vierge déflorée retrouve sa virginité. Ça, c'est classe, vous allez me dire. Ouais, ça existe, ok, mais Dieu... Il peut même faire que ce qui a été n'ait pas été. Par exemple, que Rome n'ait pas existé. Pierre d'Amiens, Moyen-Âge. Pas de problème.
Non, ça, je suis contre ça.
Pourquoi ? Si tu es contre ça, c'est que tu y as réfléchi. C'est donc que la question existe. Bon. Bien. C'est contre Jérôme. Contre Jérôme, c'est dans une épître, c'est chapitre 22, paragraphe 5. Pierre Damien. Mais c'est qu'à cette époque, au Moyen-Âge, juifs, musulmans et chrétiens considèrent que la toute-puissance est indiscutable. Croire que la puissance de Dieu est limitée, ce serait lui dénier sa perfection, vous voyez. C'est Calvin qui, le premier, va mettre un coin dans cette histoire-là. En dépit de ce que vous pouvez penser de Calvin, je vous ai mis un petit bout de texte là sur la droite. Bon, la philologie. Donc, vous avez repéré qu'il y a deux phrases en hébreu. C'est tout en haut. Alors, la première phrase, c'est la manière dont Dieu se présente dans bien des circonstances. Il dit « Ani El Shaddai ».« Ani », c'est-à-dire « moi ». Elle, Dieu, Shaddai. C'est ça qui pose problème. Shaddai. El Shaddai. Des fois, dans les traductions, c'est quasiment traduit El Shaddai. Et Shaddai, c'est souvent traduit par tout-puissant dans les éditions françaises. Il y a une autre fois où c'est traduit par tout-puissant, c'est la deuxième. Donc vous avez le tétragramme que vous pouvez prononcer en disant Hachem, le nom, ou certains disent Adonai, peut-être que ça se prononçait Yahou. Et donc, Tsebaot. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette titulature. Tsebaot, c'est le dieu des armées. Et donc il est souvent traduit par Pantocrator. Pantocrator, donc tout puissant. Si vous avez des traductions œcuméniques de la Bible, en général, il y a toujours un petit explicatif sur les différents noms de Dieu et la manière dont c'est traduit. Alors vous avez derrière la liste de toutes les occurrences de Pantocrator, il y en a 191. On va faire un petit jeu. Est-ce que certains parmi vous ont une traduction œcuménique de la Bible? Non, sur vous là, non. Ok. Bon, je m'en doutais un peu, j'en ai pris une ancienne. J'ai pris la nouvelle, ce qui est sorti il y a un an. Bien. Allez, donnez-moi une référence. C'est moi qui joue. Dans le tableau, vous prenez une référence. De Samuel 5.10. Vous avez raison, il ne faut pas chercher trop compliqué. Alors, de Samuel 5.10, je prends dans l'ancienne. J'espère que ça a marché. Je n'ai pas tout essayé. De Samuel 5.10. 2 Samuel 5, 10. Alors vous pouvez regarder aussi dans vos traductions, au second, etc., ce que ça donne. Voilà. David devint de plus en plus grand, et le Seigneur, le Dieu des puissances, était avec lui. Bon, ça ne marche pas aussi bien que ce que je pouvais espérer, mais bon. C'est pas grave. 2 Samuel 5, 10. Non, mais c'est que. Vous allez voir. David devint de plus en plus grand et le Seigneur, le Dieu de l'univers, était avec lui. Bon. Vous voyez, il y a eu un changement de traduction. Maintenant, on va prendre un autre exemple. À l'autre bout de la Bible, on n'a qu'à prendre dans l'Apocalypse. Je vais vous prendre la dernière. Vous avez pris la première, je prends la dernière. Donc Apocalypse 21-22. C'est rêve comme révélation, parce que en grec, apocalyptein, ça veut dire révélé. Apocalypse 21-22. Alors, voilà ce que ça donne dans l'ancienne traduction. Mais de temple, je n'en vis point dans la cité, car son temple, c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, ainsi que l'agneau. Je prends la nouvelle. Mais de temple, je n'en vis point dans la cité, car son temple, c'est le Seigneur, le Dieu souverain, ainsi que l'agneau. La nouvelle traduction œcuménique de la Bible a expurgé les tout-puissants. Il n'y a plus de tout-puissants. C'est l'influence des parpaillots libéraux. Parce que tout-puissant, ce n'est pas biblique, en fait. Donc, Tsebaot. Yahoud Tsebaot, Dieu de l'univers. Parce que Dieu des armées, ça fait penser un peu au général. Bon, sauf que effectivement, pour un père céleste, c'est l'idée selon laquelle il y a quelque chose d'universel, vous voyez, de cosmique. Et du coup, c'est la raison pour laquelle c'était parfois traduit par Pantocrator. Pantocrator traduit littéralement par tout-puissant. Ce qui n'est pas sans poser problème. Je commence par vous régler l'histoire de Pantocrator. Donc Pantocrator, vous l'avez sur la première ligne en latin, en grec et en translittération de grec. Et en dessous, vous avez Odunatos, donc le puissant, qui donne Pantodunamos, donc le tout-puissant, et le Omnitenens, voilà, un autre tout-puissant. En fait, il y a deux tout-puissants, c'est bizarre. Pantocrator, c'est un terme qui est construit sur deux mots. Tout d'abord, le mot tout, passe, pan. Puis après, il y a le verbe. Alors, le verbe, c'est kratein. Et kratein, ça désigne le fait un peu d'avoir la main sur quelque chose. Alors, c'est dominer, mais c'est aussi saisir par la main. C'est ce que je vous ai mis dans le petit tableau, là. Hein, vous avez plein de versets bibliques qu'on a commencé à voir. Le Marc, chapitre 1, verset 31. Il s'approcha et la fit lever. C'est une personne qui a la fièvre. La fièvre la quitta et elle se mit à les servir. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il la kratesasse. Donc, vous voyez, en termes de domination, c'est quand même pas de l'esclavagisme. C'est quelque chose qui saisit. C'est avoir la main sur, effectivement. Avoir la main, c'est comme au jeu, quand on a la main, ça veut dire qu'on peut jouer, on est capable. Donc c'est être en situation d'eux. Et donc, quand on rajoute le tout, eh bien, ça veut dire qu'il n'y a pas de domaine dont on soit exclu. Il n'y a pas en quelque sorte de lieu qui serait odieux, où Dieu serait privé d'eux. Comme d'autres se font exclure de quelques casinos. La deuxième chose que l'on peut dire, c'est par rapport à ce terme Shaddai, qui est un peu étrange. Certains ont voulu y voir quelque chose qui était de l'ordre de la destruction, c'est le dieu destructeur. En fait, si vous prenez le dictionnaire d'hébreu, il y a la racine, shad, puis là c'est un suffixe qui désigne soit le possessif, soit le pluriel duel. Et shad, ça veut dire
puissant.
ça veut dire sein, au sens de poitrine. Donc, Shaddai, ça veut dire père de sein. Alors, c'est-à-dire, c'est quand même un peu bizarre qu'on passe du Dieu médecin ou père de saint à Dieu tout-puissant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Bon, quand je vous dis qu'il y a de l'idéologie dans ces histoires-là, c'est pas tout à fait pour rien. Mais l'érotisme, c'est précisément ce qui permet d'accéder à la transcendance. C'est-à-dire que, je ne sais pas, vous avez une Bible, si vous avez une Bible, vous l'ouvrez au premier livre des Rois, au chapitre 8, verset 8. Et puis, on va faire un petit jeu d'architecture. Premier livre des Rois, chapitre 8, verset 8. Peu importe la traduction. Hein.
Dans la seconde, Shaddai, nom hébreu dont l'étymologie est incertaine.
Ah oui, d'accord. Ouais. Okay. Merci pour l'enseignement. Ouais. D'accord. Bon, mais en tout cas, voilà, c'est un secret pour personne. Shad, ça veut dire la mamelle. Hein. Donc, premier livre des Rois, chapitre 8, verset 8. Pendant ce temps-là, les autres peuvent regarder le livre... le livre de enfin, dans la liste des versets, Exode, chapitre 15, verset 3. La traduction Louis II est bonne. L'Éternel est un vaillant guerrier, donc Ish Milrama. L'Éternel est son nom. Voilà, ça, c'est une traduction littérale. Et regardez ce qu'on a fait le latin. Voilà. Le Seigneur est un homme de force. Et tout puissant est son nom. Vous voyez, le omnipotence, il sort de nulle part. C'est un glissement gentil. C'est parce qu'en fait, c'est devenu quand il sort au nom de Dieu. Alors, un roi 8-8. Alors, essayez de mentaliser ce que va nous lire Jean-Claude. Alors, vous voyez, heureusement, ça me fait du bien, parce que après avoir dit qu'on croyait en mon interprétation, on ne croit plus en mes références bibliques. Un roi, 8-8, s'il vous plaît. Très bien.
On avait donné aux barres une longueur telle que leurs extrémités se voyaient du lieu saint.
Un seul pour lire. Donc, on avait donné aux barres une longueur telle
que leurs extrémités se voyaient du lieu saint devant le sanctuaire. Mais ne se voyaient pas dehors. Elles sont restées là jusqu'à aujourd'hui.
Les barres. Oui, les barres de l'Arche d'Alliance.
D'accord.
Les barres de l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance est donc posée dans le Saint des Saints. C'est le lieu le plus saint de Jérusalem. Je vous l'ai un peu symbolisé. Il y a la tombe de Jérusalem. Ensuite, il y a la partie à l'intérieur. Et puis, il y a le Saint des Saints avec un voile. Le fameux paroquet qui va se déchirer en deux quand Jésus meurt. L'Arche d'Alliance, elle est comme ça, disons, hein, vue de haut, avec des petites choses comme ça. Et donc, vue de côté, ça fait ça, avec ici, des kéroubim. Et le texte dit, quand on mettra l'Arche d'Alliance définitivement dans le temple de Jérusalem, on ne retirera pas les barres de l'Arche. C'est un des 613 commandements. Hein. Interdit de retirer les barres de l'Arche, même quand l'Arche ne bouge plus. Alors, c'est dans les anneaux. Comment est-ce que vous pouvez expliquer le fait que vous n'avez pas écouté, mais il y a un fait un peu surnaturel? Ce que vous avez entendu, ce qui se passe avec cette barre.
Je ne voudrais pas les voir. Je n'ai pas
compris. Ouais, c'est ça, c'est tellement bizarre. On se demande ce que ça fiche dans la Bible, cette histoire.
Non,
allez, on a droit à une deuxième lecture.
On les
avait donné aux barres une longueur telle que leurs extrémités se voyaient du lieu saint devant le sanctuaire.
Oui.
Mais ne se voyait pas du dehors.
Alors comment ça marche, cette histoire? C'est une énigme. Comment on pouvait les voir du sein et on ne pouvait pas les voir de dehors? Comment elle était placée, l'Arche d'Alliance?
C'est un effet d'optique.
Oui.
Non, mais attends. On les voyait du lieu
Donc là, il y a le Saint des Saints, et là, il y a le Saint. Et puis là, il y a le dehors.
Ah, le dehors, on est dedans, quoi.
Ouais, enfin bon, de toute façon, ça c'est... on sort de plus en plus. Plus on va là, plus on entre, et plus on va là, plus on sort. Donc là, c'est le Saint des Saints, là, c'est le Saint, et puis là, après, c'est le parvis du Temple. Pardon, je me mets un peu sur le... Ah, c'est pas simple. Hein. En plus, voyez, une fois de plus, vous avez le bon raisonnement, il vous manque juste le résultat final. Parce que vous l'avez eu l'argument tout à l'heure, et il nous l'a donné.
C'était dans l'autre sens ?
Non.
Quoi ?
C'est l'effet d'optique. Il y avait quoi ? Un rideau, un agent ?
C'est que vous pensez qu'il faut que les barres elles sortent, etc. On parlait d'érotisme. Eh bien, là, il y a la pierre sur laquelle on dit que Isaac a failli être sacrifié, hein, puisqu'on considère que le mont Moria est en dessous. Et si un jour vous y allez, vous verrez qu'effectivement, il y a un petit plat. Et certainement, ça permettait à l'Arche d'Alliance d'être positionnée comme ça. Ce qui fait que les deux barres de l'Arche viennent mourir. Donc, ce qui est un voile.
Oui.
C'est une figure éminemment érotique qui évoque la transcendance. Les deux barres de...
Je suis dépassée, là.
C'est vrai ?
Oui, tu vois ?
Il ne faut pas être dépassé comme ça. Les deux barres de l'Arche d'Alliance, c'est Shnei Badei. Shnei 2, barre, et puis après de l'Arche d'Alliance.
Mais d'aucune sens, je ne comprends pas. Elle était perpendiculaire au voile ?
Eh bien, là, il y a le voile.
Voilà.
Et puis là, il y a l'Arche d'Alliance.
Ah bah oui, d'accord.
Ah bah oui, d'accord. J'ai pas dit que c'était compliqué.
Mais je trouve qu'elle était dans l'autre sens. Alors oui, il faut...
Eh bah oui, c'est ça qu'il fallait se dire.
Il fallait la retourner, quoi.
Vu du dehors, on voyait juste les
tétons. On voyait juste les tétons, en fait. Oui.
C'est pas quelqu'un qui se vend, tout ça.
Demandez-vous pourquoi il y a ce verset dans le texte biblique. Si ce n'est pour dire comment le temple joue sa fonction de révélation. Comment la révélation fonctionne ? Est-ce que la révélation fonctionne sur le plan coranique, c'est-à-dire la lettre de Dieu qui se rend disponible à votre œil ? Ou est-ce que la révélation, elle se joue sur le jeu subtil du visible et de l'invisible ? Et l'érotisme, c'est ça. C'est le jeu subtil du visible et de l'invisible. C'est la raison pour laquelle le rapport au texte, le rapport au divin, est toujours un rapport d'interprétation. Et c'est pour cela aussi que le doute fait partie intégrante de la démarche de foi. C'est parce que quand on est dans le Saint, ici, on peut toujours se demander si c'est bien ça qu'on voit. Vous voyez, on est toujours à la limite. Ceci pour vous dire que les textes bibliques ont donc un Shaddai qui est plutôt un dieu nourricier, en fait. Et ce dieu nourricier, on le voit par exemple... on le voit par exemple dans 2 Corinthiens 6, 18. Donc vous avez repéré que dans la liste, il y a 2 Corinthiens 6, 18. C'est une des rares occurrences dans le Nouveau Testament, vous avez vu. Ouvrons, si vous avez une Bible, à 2 Corinthiens 6, 18. Quelqu'un peut nous le lire ?
Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant.
Voilà. Et moi, évidemment, dans ma traduction œcuménique de la Bible, j'ai dit le Seigneur Souverain. Donc, on a notre pantocrator, en quelque sorte. Alors, vous voyez, Il y a ici inscrit le dieu Pantocrator en lien avec la filiation. C'est-à-dire que quel est le rapport que le divin entretient avec l'humain ? C'est un rapport de filiation, on pourrait dire un rapport maternel. Ça, on le verra plus précisément au mois de mai. J'ai mis Dieu parent parce qu'il y a père et mère dans cette histoire. Mais il y a cette idée selon laquelle Dieu est mère, qui à la fois nourrit et va procéder au sevrage. Et c'est le saint, évidemment, qui est la figure de jonction de cela. Parce que c'est à partir du moment où la mère dit « mon saint » qu'elle opère le sevrage de l'enfant. Le sevrage non pas au sens où elle va cesser de le nourrir de son lait maternel, c'est un sevrage symbolique. C'est qu'à partir du moment où elle dit « mon saint », Shaddai. Alors c'est soit la paire de saints, soit mon saint. Eh bien, elle dit que ce n'est pas le prolongement naturel de la bouche de l'enfant. Il y a un écart différentiel entre l'enfant et elle. Donc, le sein est le lieu de l'apprentissage de la distance. C'est le lieu de l'autonomisation. C'est le lieu de la liberté, en fait, sur le plan symbolique. C'est à la fois le registre nourricier, et on voit comment Dieu nourrit, et la parole est souvent reprise dans l'image du pain, et où est-ce que Jésus naît ? Dans la boulangerie. Bethléem. Beth, c'est maison, Léhem, c'est le pain, la maison du pain, c'est la boulangerie. Jésus est le Verbe incarné, en ce sens qu'il est le pain de vie. Enfin, vous voyez toute cette construction. Dieu Shaddai, c'est Dieu qui nourrit son peuple, mais comme une mère qui prépare aussi le moment où il quittera père et mère pour s'attacher à quelqu'un d'autre et construire une nouvelle histoire. Et dans les textes bibliques, le cordon ombilical, il est difficile à couper entre le père et le fils. Mais les mères, elles sont jamais comme ça dans le fusionnel avec leur enfant. Bon, il y a quand même Rebecca qui pousse un peu son fiston à tromper Ésaü, mais... On voit que le rapport problématique, c'est entre le père et les enfants. Bien. Là, je vous parle des textes bibliques, pas de la tradition juive. Et que ceci dit, les mères juives, je ne sais pas. Ouais, enfin bon. Ça n'appartient qu'à vous. Ouais. Dans les 5 minutes qui nous restent, et dans les choses importantes et intéressantes à vous dire. Ouais. La difficulté, c'est que les auteurs latin, je pense à Augustin en particulier, vont écraser un peu les distinctions de sens de les deux termes que vous avez sur la petite feuille, Pantocrator et Pantodunamos, qui se traduisent l'un par omnitenens et l'autre omnipotens. On a ça dans Augustin, je vais vous en lire un passage. Dans son ouvrage sur la Trinité, au chapitre 4, le verset 27. Et ça reprend le passage de la Sagesse, chapitre 7, verset 26, que je vous ai mis sur les feuilles aussi, en principe. Donc, c'est ça. Quoi d'étonnant, donc, s'il est envoyé non parce qu'il est inégal au Père, c'est le Fils dont on parle, hein, le Verbe, mais parce qu'il est une certaine émanation pure de la clarté du Dieu Tout-Puissant. Et ça, c'est une citation de la Sagesse. une certaine émanation pure de la clarté du Dieu Tout-Puissant. Et un peu plus loin, il écrit ceci. C'est là, je vais vous retrouver ça. Voilà. Il ne faut pas non plus s'émouvoir de ce qu'elle soit appelée une certaine émanation pure de la clarté du Dieu Tout-Puissant, comme si elle-même n'était pas toute-puissante, mais émanation de la toute-puissance. Et alors c'est là que la phrase est intéressante. Bientôt, en effet, il est dit d'elle, donc de la sagesse, c'est-à-dire du Verbe de Dieu, c'est-à-dire du Christ finalement, il est dit d'elle, la sagesse, puisqu'elle est unique, elle peut tout. Et en fait, vous voyez, c'est à partir de ce moment-là que ça part un peu en vrille dans la théologie chrétienne. Omnipotest, elle peut tout. Pourquoi ? Parce que, en fait, elle est capable de tout. Enfin, parce qu'elle est unique. Dans les confessions, au livre 11, le livre 11 est connu parce que ça parle du temps, paragraphe 13-15, on a ce que je vous disais tout à l'heure, l'intégrale d'Augustin sur le Omnia. Je vous retrouve ça. Oui, c'est ça. Et si quelque esprit inconstant, vagabond à travers les représentations qu'il se fait des temps révolus, vient à s'étonner que toi, le Dieu Tout-Puissant, Créateur et Maître de toutes choses, artisan du ciel et de la terre. En latin, c'est le Deum Omnipotentem, et Omnicreentem, et Omnitenentem. Donc, alors c'est dans le livre dans les Confessions, le livre 11. Alors, jamais si on dit chapitre ou paragraphe 13, donc 15. Confession 11, 13, 15. Et pour le De Trinitate, c'était 4, 27. Le paradoxe que Augustin va soulever, c'est que Dieu peut faire ce qu'il veut, mais que d'un côté, il ne peut pas mourir, il ne peut pas pécher, il ne peut pas mentir, il ne peut pas se tromper. Et la logique va être poussée un peu à l'extrême. On va dire que c'est la scolastique qui va dire ça, que Dieu peut tout, sauf ce qui est contradictoire en soi. Par exemple, il ne peut pas faire en sorte qu'un cercle soit carré. Il ne peut pas cesser d'être Dieu. C'est-à-dire que, pour faire plaisir à François, c'est la limitation par les règles logiques. Le temps béni de la scolastique.
Il s'est envolé déjà.
Non, non, non.
Donc, vous voyez, ça limite la question du « peut-il vraiment tout ?» Et Origène dit « Dieu peut tout ce qu'il peut faire sans cesser d'être Dieu, sans cesser d'être bon, sans cesser d'être sage. » Donc, Origène dit il y a des limites. C'est-à-dire que la limite, c'est le champ de compétence de Dieu. Donc, ça rejoint peut-être un peu votre idée sur le Dieu du ciel n'est pas compétent sur tous les domaines terrestres. Mais en fait, c'est pas encore tout à fait ce qu'on va avoir au XXe siècle. Parce que c'est toujours sous l'angle de la justice. C'est-à-dire que Origène va dire « Dieu ne peut pas commettre l'injustice ». C'est-à-dire que Dieu ne peut pas faire ou faire faire quelque chose qui serait contraire à la loi qu'il a donnée. C'est la question, par exemple, du sacrifice d'Isaac. Ça fait dire à quelques théologiens, ben c'est que Abraham avait mal compris, parce que Dieu ne peut pas ordonner à Abraham de tuer son fils, alors que Dieu dit qu'il est interdit de tuer. Donc vous voyez, il y a des choses qui seraient comme cela, hors du pouvoir de Dieu. Le premier changement, ça va être au moment de la réforme, avec Calvin et Luther. Alors, comme Calvin, je vous ai mis le texte, je l'ai utilisé dans une prédication, je vous y renvoie, je vous le laisse. Je vous dis ce qu'il en est de Luther. Luther va distinguer la puissance absolue et la puissance ordonnée. Alors, j'espère que vous allez apprécier cette sophistication à sa juste valeur. Voici ce qu'il écrit dans le Serf Arbitre, livre 18, enfin paragraphe 18, chapitre 18. J'appelle toute puissance de Dieu, non pas cette puissance par laquelle il ne fait pas beaucoup de choses qu'il peut faire. Il est fin, Luther. C'est-à-dire qu'il voit bien que Dieu, il est un peu en sous-régime. Si vraiment Dieu est tout puissant, il y a des choses qu'il oublie de faire. Donc, il n'appelle pas cette puissance par laquelle il ne fait pas beaucoup de choses qu'il peut faire, mais cette puissance actuelle par laquelle il fait puissamment tout en tous, comme l'Écriture appelle sa toute puissance. C'est un premier pas. C'est un premier pas. Non, mais quand je vous rends attentif au fait que Luther a quand même un petit mot d'humour sur le fait qu'il voit bien que Dieu est en sous-régime. Vous voyez ? Il faut pouvoir l'apprécier, il faut le savourer. Luther est conscient du fait que la toute-puissance ne s'exerce pas. Et ça prépare ce que Monod dans les années 20, puis les théologiens du process, et Hans Jonas par exemple, comme représentant de la tradition juive, vont dire au XXe siècle, c'est qu'en fait la toute-puissance, ce n'est pas une donnée, c'est plutôt une perspective. Donc, tu seras heureux de lire sous la plume de Wilfred Monod que précisément, la toute-puissance de Dieu ne pourra s'exercer qu'à la condition qu'elle trouve donc les organes adaptés. Et donc, c'est là où c'est intéressant parce que ça ouvre le champ de notre éthique. L'éthique, c'est justement pouvoir manifester la toute-puissance de Dieu. C'est de faire en sorte qu'elle advienne. Et nous, on est dans le temps de l'avant de la toute-puissance de Dieu. C'est-à-dire que c'est nous qui préparons les chemins du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est nous qui préparons les chemins de la toute-puissance jusqu'à ce qu'elle donne toute sa mesure. Oui, mais on l'a justifié entre-temps. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une intuition. Ce n'est pas simplement peut-être que ça pourrait marcher comme ça. D'accord. Ah, très bien. Okay. C'est aussi un détour utile parce que lorsque la prochaine fois on va s'intéresser à l'omniscience, c'est-à-dire la capacité pour Dieu de tout savoir, bien s'il ne peut pas tout, ça va avoir forcément une répercussion sur son omniscience ou sa non-omniscience. Parce que soit Dieu connaît l'avenir et il est tout-puissant, dans ce cas-là, alors là, l'homme, il est encore moins que rien. Soit il connaît l'avenir et il n'est pas tout-puissant, mais dans ce cas-là, ça signifie qu'il peut stimuler l'homme pour qu'advienne certaines choses. Soit il ne connaît pas l'avenir en n'étant pas tout-puissant, et là, ça devient intéressant.
Une répartition de la puissance entre l'homme et Dieu. Et on voit très bien, d'ailleurs, que lorsque l'homme devient, appelons le pauvre en esprit, si vous voulez,
oui.
Dieu devient très puissant, même tout-puissant.
Oui.
Lorsque l'homme, au contraire, prend conscience de son importance dans la création, à ce moment-là, il donne à Dieu une valeur relative. Il y a une sorte d'équilibre d'une notion globale et absolue de la puissance. C'est l'impression qu'on peut avoir.
Oui, c'est l'hymne de Paul dans lequel on parle de la kénose de Jésus. C'est-à-dire la capacité à se vider de soi-même, de prendre la condition de serviteur pour permettre à la puissance de Dieu de s'exprimer totalement. Bah, c'est un peu cette formule « Dieu propose, l'homme dispose ». C'est-à-dire qu'il y a une espérance de Dieu qui est là, il y a des possibilités qui sont offertes, mais elles ne s'incarnent qu'à la condition qu'un corps en fasse quelque chose. C'est-à-dire que c'est à la condition qu'on se saisisse de ce talent-là qu'on peut le faire valoir. Et donc, effectivement, il y a un équilibre qui est a priori plutôt un équilibre dynamique, où la puissance de Dieu trouve un relais dans la puissance de l'homme, et ce sont comme deux roues qui vont s'enchaîner, hein, une sorte de force démultiplicatrice, c'est-à-dire que l'espérance de Dieu ne peut entraîner le mouvement qu'à la condition qu'il y ait le rouage qui y suive. C'est comme les prises électriques. C'est-à-dire que le courant est là, mais si on ne branche pas la lampe dessus, la lampe, elle ne donne rien. Pourtant, le courant, lui, est toujours là. Donc, il y a une puissance électrique, mais la puissance électrique, si elle n'est pas convertie en chaleur et en luminosité, eh ben, elle est morte, en fait, en quelque sorte. Et de même que la lampe est morte si elle ne trouve pas son énergie là, disponible. C'est-à-dire que si l'ampoule ne meurt pas, si l'ampoule ne chauffe pas et qu'elle n'éclaire pas, donc si elle ne meurt pas, puisque plus ça chauffe, plus ça éclaire, plus ça meurt, eh bien en fait, elle n'existe pas. Donc, on est peut-être un peu plus dynamique qu'une ampoule électrique, mais en fait, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est à la condition de mourir qu'on vit. C'est aussi dans cet équilibre d'énergie-là.
Est-ce que c'est Bruno qui a dit « Dieu n'est pas encore »
Oui. Oui, c'est exactement ça. C'est tout à fait dans cette perspective-là. Hein? Voilà. Ouais. Oui, c'est ça. Pas la peine de rajouter. Ouais.
Je crois que c'est Pasteur Wagner qui avait dit que l'homme était l'espérance de Dieu.
D'ailleurs, c'est écrit dans le temple, il y a une très belle bâche, l'homme est une espérance de Dieu. Parce que, Mono disant, la prière exauce Dieu. C'est-à-dire que si prier, c'est se retroucher les manches, c'est comme cela qu'on exauce Dieu. François.
J'ai compris que c'est bien parce que les croyants, hein, je pense pas que les chrétiens, les croyants n'arrivent pas à résoudre cette question de la puissance, de la toute-puissance de Dieu, que les philosophes, en particulier les philosophes des Lumières, ont développé la notion de grand architecte de l'univers. Voilà. Un grand architecte de l'univers, c'est quelqu'un dont on arrive à assez bien cerner le profil, ce qu'il fait, il ordonne, il crée, etc.
Ouais.
Mais ça ne veut pas dire qu'il est tout puissant, qu'il est impuissant.
Non, tout à fait.
Ça ne s'arrange pas du tout sur ce même registre.
Si, c'est sur ce même registre parce que c'est une manière de disqualifier la toute-puissance. C'est-à-dire que c'est une manière de remplir l'espace laissé par une toute-puissance qui n'est pas. C'est-à-dire que c'est une autre façon de parler de l'action de Dieu, puisque la toute-puissance n'est plus opérationnelle. Du coup, on essaie de trouver un nouveau modèle, le modèle de l'architecte, par exemple. Les théologiens du process sont pas loin de ce modèle de l'architecte, à vrai dire. Mais un architecte, c'est-à-dire que le modèle du grand architecte, c'est quand même un modèle omniscient. C'est-à-dire que Dieu sait de quelle manière les choses vont se passer. Le modèle de la théologie du process, c'est un modèle où Dieu n'est pas omniscient, et donc en permanence, le plan change. Le plan est en permanence redéfini, oui. Il y a une interaction continuelle. Alors que dans la perspective du grand architecte 18e siècle, on est plus dans un modèle définitif, en quelque sorte. Alors qu'on est dans un modèle infinitif avec la théologie du process.
S'il vous plaît, dans cette nouvelle traduction, oui. Partout la toute-puissance a été remplacée par souverain.
Oui, ou autre chose. En tous les cas, la toute-puissance est morte. Vive la toute-puissance. Parce que justement, c'est ça, elle est à venir. Donc comme elle est à venir, ben, elle ne peut pas être encore déjà là. Elle est un petit peu là, mais pas dans la lettre, parce que la lettre tue. Et il ne faut pas tuer la toute-puissance. Voilà. Allez, la fois prochaine, on s'intéresse donc à l'omniscience. C'est le 17 janvier. Entre-temps, Noël et Épiphanie.